Ok, alors je vous invite, on va démarrer avec la péricope qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, je vais peut-être demander à quelqu'un de faire la lecture de jusqu'à 19a, si c'est possible. Donc on est au 9e chapitre, hein, et on tourne la page paulinienne.
Là, je vais lire pour une fois. Je vais lier ma langue.
Oh, oh là là, le cri du
cœur. Pas trop délié, apparemment. Pas trop.
Je me dirais très bien.
Fais gaffe à ce que tu dis.
Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
Mais il y avait des choses en plus pour le verset 5 et 6, non?
Oui,
moi je n'ai pas.
Oui, vas-y, redis-le, le verset là. Bernard, tu as des trucs en plus que nous.
Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Ouais. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre des aiguillons. »
On n'a pas ça.
C'est ce long qui a ça.
Dans le grec, il n'y est pas.
Non, dans le grec, ça n'y est pas.
C'est quoi ces
aiguillons? C'est dans des manuscrits trop récents. Ça existait dans certains manuscrits trop récents, mais par contre, c'est repris plus loin des Actes. Dans le témoignage de Paul lui-même, cette expression est utilisée. Donc certains copistes l'ont cru bon de ramener ça aussi ici, puisque ça y était plus loin.
Ah, ben oui, il y a trois récits.
Voilà. Oui.
Acte 22 et acte 26.
Oui, c'est ça.
d'accord.
Bon, je ne sais plus si c'est dans 22 ou 26, mais dans un des deux, cette expression est liée, effectivement.
Ah, ah oui, donc c'est un corpus qui a ramené ça. Dans...
C'est des manuscrits tardifs.
Oui, d'accord. Mmh.
Voilà la raison pour laquelle, dans la plupart de nos bibles, ça n'y est pas. Voilà. Bon, on entame une page qui est quand même celle de Paul. On a beaucoup parlé de Pierre jusqu'à présent, et puis là, on va commencer à parler de Paul aussi. Mais nous découvrons dans ce chapitre 9 des Actes comment Jésus a stoppé, on pourrait dire stoppé net, la course destructrice du pharisien Saul de Tarse, le transformant même, et c'est ça l'humour de Dieu, en disciple de la voie et un évangélisateur du monde païen. Donc quand même, c'est pas rien. Et cet homme est ainsi appelé à ouvrir une page importante du christianisme. Car il a marqué le christianisme, dont celui du premier siècle, en particulier auprès des païens, mais pas que, puisqu'on verra qu'il a quand même beaucoup de... Partout où il est passé, il a d'abord évangélisé dans les synagogues, où que ce soit. Voilà donc pour une courte intro. Alors évidemment, ici on parle de Péricope, mais le chapitre lui est plus long. On verra que ça nous fait entrer dans d'autres histoires. Alors, je ne sais pas quels sont... Les intitulés dans vos Bibles, dans la tobe pour cette péricope, on a la vocation de Saül. Certains autres parlent de conversion. J'ai toujours un petit problème avec le mot conversion quand il s'agit des Juifs. Je dirais plutôt d'une reconnaissance du Messie. Ce serait plus de leur Messie, pour être précis d'ailleurs. Ce serait mieux. Enfin, peu importe. Est-ce qu'il y a d'autres titrages dans vos Bibles sur cette péricope ? Conversion.
Conversion. Okay.
Voilà. Et donc ça commence très fort, puisqu'en fait, au verset 1, c'est comme si le texte 9.1 nous ramenait à 8.3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passait au 8e chapitre. Et donc Luc, intentionnellement, après avoir fait une longue parenthèse sur Philippe et l'eunuque éthiopien, nous ramène... À la persécution, si vous voulez, à ce qui se passe à Jérusalem, au contexte et aux faits réels. Et on imagine que depuis le meurtre d'Étienne, Saul reste donc très actif pour détruire l'église naissante à Jérusalem, parce que quand même la phrase respirant toujours menace et meurtre, c'est quand même très fort. Hein. Et c'est d'autant plus gênant que il s'agit ici d'un pharisien qui n'est pas un bête pharisien, c'est un homme de loi, c'est un homme qui a étudié la loi. Donc c'est un professeur, si vous voulez, c'est un maître. Et donc ce maître se comporte plutôt mal au regard de la loi dans sa manière de traiter les personnes. Et j'irais même, son comportement dépasse le cadre de la pratique du judaïsme. Il est un peu trop carré, un peu trop zélé, un peu trop extrême dans sa manière de défendre la loi. Et je vous renvoie d'ailleurs, même si on l'étudiera plus tard, à une lecture dans le chapitre 26 des Actes, où Paul donne lui-même son témoignage, c'est à partir du verset 9. Je ne lirai que quelques versets. « Pour ma part, dit-il, j'avais vraiment cru devoir combattre par tous les moyens le nom de Jésus de Nazoréen, et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai en personne incarcéré un grand nombre des saints en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres, et j'ai apporté mon suffrage quand on les mettait à mort, donc il y a eu des morts, manifestement. Parcourant toutes les synagogues, je multipliais mes sévices à leurs égards pour les forcer à blasphémer, et au comble de ma rage, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères, ce qui nous amène à notre récit. C'est ainsi que je me rendais un jour à Damas, avec plein pouvoir et mandat spécial des grands prêtres. » Voilà, donc ça nous donne une idée de ce qui animait, et on voit bien que ce qui anime, ce n'est pas Dieu, mais c'est plutôt l'orgueil et la rage d'un homme qui trouve que cette voie est problématique, hein. Et qu'elle fait du tort à Dieu, mais il s'y prend plutôt mal pour défendre les intérêts de Dieu.
Est-ce que Paul, ou Saul, était le seul à penser comme ça ? Parce qu'il avait vraiment, quand même l'accord des personnes
Oui, on
parlait de la haine, de la prêtrise. Il le soutenait, il l'encourageait, oui, vas-y, quoi.
Mais comme on a vu déjà plusieurs fois, la grande prêtrise de l'époque est plutôt une imposture. Donc, il ne représente en rien le judaïsme au sens clair et net du terme. Ils sont même haïs par un certain nombre des membres de la population en Israël et en Judée, parce que ces gens sont des collaborateurs, parce qu'ils se font du pognon sur le dos du culte au temple de Jérusalem, et puis parce qu'ils ils se comportent mal au regard de la loi par rapport à la manière de traiter ceux de la nouvelle voie, justement. Ça pose quand même un sérieux problème. Qui sont juifs, ne l'oublions pas. Donc les juifs maltraitent des juifs, si tu veux. On n'en est pas encore à la persécution de l'Église en tant qu'Église païenne. Bon, c'est assez notable quand même.
Mais la question oui. est intéressante. Est-ce qu'il y en avait d'autres que Paul qui persécutait?
Apparemment, c'était lui le grand inquisiteur du moment, manifestement, dans ce qu'on rapporte les actes en tout cas. On n'a pas d'autres témoignages de maltraitance par quelqu'un. Lui, il est mandaté, ou il fait en sorte d'être mandaté par les grands prêtres, donc ceux qui ont le pouvoir politique et religieux et juridique, et ça lui donne des droits. D'ailleurs, on verra que ça lui donne même des droits à Damas. On peut aller arrêter des gens à Damas dans une contrée étrangère qui ne dépend pas de Jérusalem. Du moment que ça se passe entre juifs, ça va. Voilà. Et puis on enchaîne ces gens, on verra dans le texte, on les enchaîne et on les ramène captifs à Jérusalem pour être jugés, et très souvent pour mourir, manifestement, d'après le témoignage que Paul donne lui-même, hein, un peu plus loin dans les Actes des Apôtres.
Il est possible aussi que les chefs religieux ne se salissaient pas les mains. Ils déléguaient les sales tâches à d'autres personnes, et ça les arrangeait peut-être bien d'avoir un genre de Saul qui lui voulait bien, malgré sa position de pharisien, faire le sale boulot aussi.
Surtout qu'eux étaient très opposés à cette nouvelle voie du judaïsme. Ouais. Hein, ça ne faisait pas leurs affaires. Ouais. Donc, nécessairement, si quelqu'un fait le sale boulot, comme tu le dis, pourquoi pas? Donc, on se rend compte à quel point Saul de Tarse est quand même animé par quelque chose qui n'est pas du tout spirituel.
Non.
Sa manière de vouloir faire le ménage pour Dieu, entre guillemets, est quand même plutôt malsain. Et donc la transformation, on va s'en rendre compte dans notre péricope déjà, elle est immense entre cet homme enragé, si tu veux, et puis l'homme qu'il devient après avoir rencontré le Christ. Hein. Alors voilà, donc au verset 2, on découvre alors que Saul, c'est lui qui a décidé de s'auto-investir. Vous voyez ? C'est pas les grands prêtres qui ont dit, dites-vous là, le maître Saul, est-ce que vous pourriez faire le ménage ? Non, c'est lui qui s'auto-investit en demandant spécifiquement d'être chargé d'une telle mission et de finalement une mission plus large que celle de la Judée, hein, on est bien conscient ici. C'est la mission d'aller arrêter dans une autre ville, à l'étranger, dans un territoire étranger, les Juifs qui se seraient convertis
enfin, non,
oui,
enfin, dit pas
qui auraient embrassé la voie messianique. Oui. Hein. Et donc il demande au grand prêtre, qui fait autorité, n'est-ce pas ? C'est lui qui a l'autorité sur tous les Israélites, où qu'ils soient dans le monde. Parce qu'il est le grand prêtre. Il n'y en a pas 10, il n'y en a qu'un. Un peu comme le pape aujourd'hui, si vous voulez. Donc, c'est ce grand prêtre qui fait autorité et qui donne le droit ou non d'aller faire ceci ou cela, et ici, d'arrêter des gens. En délivrant à Saul des lettres, et on comprend que ce sont des lettres de recommandation, par conséquent, qui lui donnent plein pouvoir, comme le dit Paul dans la lecture qu'on vient de faire, pour s'introduire aisément dans les synagogues, notamment de Damas. Pourquoi ? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi Damas ? Pourquoi pas une autre ville ?
Parce que c'est en Syrie. C'est...
Parmi les Philistins.
Pourquoi pas commencer par les villes plus au sud ?
Oui, mais on aurait pu imaginer qu'il aille plus vers la côte libanaise actuelle, qui était aussi hors territoire d'Israël, etc. Mais non, c'est Damas, et Damas, ce n'est pas pour rien. D'abord, on y reviendra dans un moment, mais à vol d'oiseau, par la route la plus directe, Damas est à environ 300 km de Jérusalem. 200 à vol d'oiseau, parce qu'évidemment, comme il y a des montagnes et tout ça, il faut faire des tours et des détours. Et il fallait globalement une semaine pour faire un tel voyage. Alors, cette ville est alors, à l'époque des faits ici, sous la domination du roi nabatéen Arétas IV. Et je le dis parce qu'on retrouvera plus loin dans les textes que Paul aurait été en Arabie. Mais l'Arabie, à l'époque, c'est ce qui est en dehors de la juridiction de la Judée et qui relie, si vous voulez, depuis la frontière, au niveau de Jérusalem et de la vallée du Jourdain, à Petra, en Jordanie actuelle. Petra étant la capitale des Nabatéens. Les Nabatéens sont des Arabes caravaniers qui font du commerce. Et dans leur ligne de commerce, ils partent de l'océan Indien. Ils remontent tout le rift jusqu'à Damas, où on vend. Donc Damas est un lieu d'échange, un lieu commercial. On y reviendra aussi tout à l'heure, peut-être un petit peu. Et d'après Joseph, l'historien Joseph, le juif, il dit que il y avait là-bas des dizaines de milliers de juifs qui vivaient à Damas. Déjà à cette époque. Et pas à cause de la persécution et de l'exil, mais parce que dans la diaspora, il y avait une immense diaspora juive, au point que le même Joseph dira qu'au moment de la guerre avec les Romains, en 66, avant la destruction du Temple, les Romains y ont massacré 18 000 personnes juives à Damas. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute 20 ou 30 000 juifs vivant dans cette grande ville. Donc revenons à nos moutons, après cette histoire de topo géographique et historique. Il lui accorde donc les pleins pouvoirs pour aller arrêter ceux qui, parmi ces dizaines de milliers de juifs, auraient déjà embrassé la voie messianique. Et la raison en est simple, comme il y a eu la persécution à Jérusalem, beaucoup sont allés à Damas, ont fui à Damas pensant être à l'abri en dehors des frontières de la Judée et d'Israël. Mais ce n'est pas le cas, manifestement, puisque Paul a quand même obtenu le droit d'aller arrêter des gens là-bas. Et on découvre aussi dans notre verset 2 que Luc donne une nouvelle appellation aux chrétiens. Maintenant, il les appelle ceux qui suivent la voie, si vous voulez. Donc, on va parler de la voie, une nouvelle appellation, qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus loin dans les Actes, au chapitre 22, au chapitre 24, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent la voie du Seigneur, tout simplement, ou la voie de Dieu, la voie messianique, ou encore la voie du salut, en fonction des textes qu'on va prendre en compte dans les Actes des Apôtres. Et donc, on se rend compte à quel point Saul est animé d'un zèle persécuteur, puisque c'est s'engager quand même à quitter Jérusalem, à voyager, et la vie n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, voyager avait comporté toujours des dangers, aller faire ses enquêtes juridico quelque chose à Damas, arrêter des gens, puis les reconvoyer vers Jérusalem. Il fallait être animé quand même d'une réelle envie de faire le job, quoi. Et c'est au moment où il arrive, après presque une semaine de voyage, aux confins des portes de Damas, au verset 3, que cette expérience lui tombe dessus. En fait, il n'est pas très loin de Damas. On ne sait pas où il est exactement, mais il doit être à quelques kilomètres seulement de Damas au moment où ça se passe. Et on nous décrit donc une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Et je vous avais posé sans doute quelques questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de luminosité ? De quoi ça parle ? Est-ce que vous avez trouvé deux, trois choses intéressantes ?
Moi, j'ai pensé à la lumière de la transfiguration.
Oui, moi.
Ok.
Jésus avait dit « Je suis la lumière du monde ».
Exactement, là aussi. Donc, c'est pas anodin que ce soit une lumière qui... Le phénomène, en tout cas, qui marque cette rencontre.
Et puis, d'une certaine façon, il était aveuglé en persécutant
la voix.
Il est plutôt dans les ténèbres, oui.
Oui, oui.
On est bien d'accord. Donc être éclairé, ça ne fait pas de mal de temps en temps.
Okay. Ça m'a fait penser à de nombreux passages quand même dans la Bible. Il y a l'ange au tombeau, le jour de la résurrection. Alors, c'était pas une grande lumière, mais l'ange était lumineux.
Ouais, ouais.
La transfiguration, vous l'avez dit. Le buisson ardent avec Moïse. Au mont Sinaï, dans l'Exode 24, la première fois, quand Moïse est monté sur le Sinaï.
Un feu au sommet de la montagne, ouais. Le texte. Ouais.
Le rocher, feu de Dieu. La deuxième montée au Sinaï aussi, de nouveau, on voit un Dieu très lumineux. J'ai vu.
Oui, il y en a plein.
Moïse qui a dû mettre un voile sur son visage après être passé 40 jours.
Tellement il était lumineux lui-même.
La colonne de feu la nuit, lors de l'Exode. Lumière et ténèbres à Gozan, en Égypte. À un moment donné, une des plaies, c'est qu'il faisait complètement noir partout, où les Égyptiens ne voyaient rien du tout, mais à Gozan, il y avait la lumière. Acte 2, à la Pentecôte, un vent impétueux et des langues de feu. Alors, évidemment, ce n'est pas une lumière qui éblouit tout, mais des langues de feu, ça éclaire quand même. Et j'ai regardé un petit peu dans la concordance. Quand on parle de lumière, wow, il y a énormément de versets. La lumière est très très importante dans la Bible.
Exactement.
Et j'ai trouvé cette question vraiment intéressante, la question de Yves sur la lumière.
C'est-à-dire que pour un homme comme Saul, versé dans la loi, connaissant les Écritures sur le bout des doigts, il ne lui échappe pas que cette luminosité est divine. Alors il ne sait peut-être pas encore vraiment si c'est Jésus ou Dieu, son Dieu d'origine, si vous voulez. C'est pas clair dans le texte, bien que le grec nous dise qu'il utilise le mot « Kyrie » en s'adressant à cet homme, enfin à la voix. Donc oui, c'est ça. Mais « Kyrie », c'est « Seigneur », tout simplement. Donc si ça avait été la voix d'un homme, il aurait dit « Adonis ». Monsieur,
oui.
Vous voyez ce que je veux dire. Mais non, le terme grec ici est très révélateur. Il pense que ça peut être la divinité elle-même qui se révèle à lui. Et pourquoi? Ben à cause de tous les textes qu'on vient de citer. Il y en a encore un sacré paquet, aussi bien dans le Nouveau d'ailleurs que dans l'Ancien, où la lumière est toujours révélateur de la présence divine. Quand la lumière est là, c'est que Dieu est là. Et pour un juif, ça ne peut pas lui échapper du tout. On comprend alors pourquoi pourquoi les autres tombent à terre aussi. Et lui aussi d'ailleurs, mais c'est pas que lui, toute la troupe qui est avec lui tombe à terre, alors soit de peur, parce que c'est le cas apparemment, pour beaucoup. Et Paul dira lui-même, plus tard, on retrouve ça dans le chapitre 26, au verset 13, que cette lumière était aussi éblouissante que celle du soleil, dit Paul. Donc c'était aveuglant. Bon, on ne peut pas ne pas voir, on ne peut pas ne pas subir l'événement, cette théophanie, si vous voulez, cette manière pour Dieu de se présenter en Christ à ce Saul qui persécute l'Église depuis un bon moment, quoi. Et donc, un peu plus loin, bon, on nous dit, oui, voilà, il tombe à terre. Et là aussi, ça valait la peine d'aller creuser un peu dans l'Écriture. Est-ce que tomber à terre, c'est normal quand Dieu se révèle ou est-ce que c'est exceptionnel? Et effectivement, on trouve 2-3 exemples comme ça.
Bien souvent, on se prosterne.
Oui, mais alors là, c'est plutôt de la révérence.
Ah, d'accord, oui.
Alors qu'en fait, tomber à terre ici, c'est un signe prophétique, en fait. Hein, ça
quand
veut dire...
Pierre coupe l'oreille au serviteur, là, est-ce qu'ils ne tombent pas tous par terre au jardin?
Je ne me rappelle pas.
Non.
Est-ce que c'est pas... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça se passe effectivement à Gethsémané. Mais c'est pas quand Jésus se tourne vers eux et leur dit « Vous êtes venus arrêter qui ?»
C'est possible,
C'est la révélation divine, encore une fois. Mais donc, dans l'Ancien Testament, et la littérature juive d'ailleurs, les gens tombent au sol quand ils sont confrontés à Dieu, confrontés à la révélation divine, ou aux anges, hein, peu importe. Les anges étant les envoyés, hein, les missionnés, si vous voulez, de Dieu. Donc ils tombent soit de frayeur, soit de faiblesse. Et la raison est simple, on est devant Dieu, devant la gloire de Dieu, ou la sainteté de Dieu, et on ne peut pas résister humainement à cette présence-là. Et on retrouvera dans l'Écriture des passages très significatifs, surtout chez les prophètes. Les prophètes tels qu'Ézéchiel, Daniel, nous rappellent cela. Dans Ézéchiel au chapitre 1, par exemple, au moment où Dieu se révèle à Ézéchiel, il contemple la gloire de Dieu, dit le texte, une lumière éclatante, et il tombe face contre terre, et il entend quelqu'un lui parler. Donc, exactement la même structure, vous voyez, chronologique que celle qu'on trouve dans les Actes à propos de Saul. Et dans Daniel, on trouve le même genre d'exemple. Il est effrayé, il tombe face contre terre, et puis il est épuisé, dit le texte, il est malade pendant plusieurs jours, Daniel, suite à une révélation comme celle-là.
C'est trop puissant. Parce que c'est trop puissant.
Oui, ça apparemment, ça te vide de ta propre énergie, tout en étant, devenant un instrument toi-même de porte-parole, hein, de cette révélation que tu reçois. Et un peu plus loin, au chapitre 10 de Daniel aussi, il refait une expérience où il voit un visage flamboyant, des flammes ardentes, il perd ses forces de nouveau. Le texte dit même, il est pâle, très pâle, il perd connaissance et il tombe face contre terre. Donc ça, c'est chez les prophètes. Et on retrouve le même genre d'image dans Apocalypse, alors, au chapitre 1, là aussi, à partir du verset 10, où on nous décrit une voix forte qui parle à Jean, hein, des yeux comme une flamme ardente, un visage éblouissant comme le soleil, et Jean tombe à ses pieds comme mort, dit le texte. Voilà. Donc on voit que ce type de révélation est assez spécifique dans un cadre pour une mission terriblement importante, qui est souvent prophétique, et Dieu sait si la mission de Paul de convertir les païens est révélateur d'une parole prophétique qui a été donnée depuis des millénaires, hein, notamment à Abraham, par exemple. Hein. Donc on imagine bien la séquence et ce qui se passe à ce moment-là.
Les deux premiers d'Ézéchiel,
oui.
Et Daniel,
c'est quelle référence ? Ézéchiel 1. Les versets 4 à 28, si vous voulez l'histoire complète. Et les deux autres, c'est dans Daniel, au chapitre 8 d'abord, les versets 17 à 18. Et la deuxième séquence dans Daniel, c'est au chapitre 10, les versets 4 à 9. Et pour ce qui est de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 10 à 18, pour toute la séquence. Donc, on voit que Saul fait une expérience similaire à celle des grands prophètes de l'Ancien Testament, une sorte d'expérience hors du commun et qui va marquer profondément son existence, sa vocation et même son ministère. De pharisien qu'il était, docteur de la loi, enseignant, il va devenir le plus grand évangélisateur et puis le plus grand théologien de l'Église primitive. On verra pourquoi tout à l'heure. Oui, je vous en prie.
Est-ce que du coup, c'est un lien aussi avec le fait de dire tu ne peux pas voir Dieu et vivre ? Est-ce que c'est alors du coup, parce que moi j'avais un peu toujours vu ça comme étant une sorte de menace, tu ne peux pas
non.
voir. Et donc c'est plus l'idée de si tu vois Dieu en face et que tu le regardes, tu seras épuisé de toutes tes forces et donc tu mourras.
C'est, en fait, si tu veux, voir Dieu est impossible à l'homme fini, l'homme pécheur, si tu veux. C'est impossible de rester zen, nickel devant Dieu. C'est pas possible. Il y a une telle différence entre le saint, le trois fois saint et nous, que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas une menace, tu as raison. Là, il faut bien ne pas confondre les choses et bien comprendre que c'est juste l'avertissement que ce n'est pas possible. Parce que tu n'es pas au ciel. Tu ne peux pas être dans cette proximité. Et finalement, les hommes ont eu énormément de chance. Je pense à nos disciples, par exemple, de pouvoir vivre 3 ans avec Dieu. sans même s'en rendre compte, sans en avoir peur, etc., etc. Et nous, nous vivons avec Jésus, mais dans le cœur, tous les jours. Donc voilà, et on ne meurt pas pour autant. Donc on voit bien qu'effectivement, ce n'est pas une menace, mais un constat que c'est impossible en tant que pécheur de vivre d'égal à égal avec Dieu, quoi, en gros. Autre question ? Oui.
Tu peux pas le prendre un peu le côté, mais c'est pas symbolique, dont Bernard parlait, qu'il chute aussi parce qu'il est... Il était aveuglé, il était dans un aveuglement.
Oui, mais il n'y a pas que lui qui chute, toute la troupe, tous ceux qui sont présents, comme, un peu comme à Gethsémané, tout le monde.
Or, les autres ne voient pas la même chose que lui.
Non, justement, c'est ça qu'on va découvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, au verset, je ne sais pas si c'est toujours le même verset d'ailleurs, le grec transcrit fidèlement, aussi fidèlement possible en tout cas, la prononciation sémitique du nom de Saul de Tarse. C'est-à-dire que le grec traduit Saoul, Saoul, mais parce qu'ils ne savent pas dire ch, hein, ils ne savent pas le prononcer correctement. Sinon, ils diraient Shaoul, ça aurait été encore plus juste. Mais voilà, le grec dit Saoul, Saoul, qui montre encore une fois que cette voix s'adresse en araméen. Alors, parfois, le texte dit l'hébreu, mais l'hébreu biblique n'est pas la langue utilisée, c'est l'araméen qui est utilisé. Donc, on se rend compte que Jésus s'adresse à Saul dans sa propre langue, de manière à ce qu'il le comprenne véritablement. Et d'ailleurs, on se rend compte au verset 5 que Saoul a bien entendu et même compris, d'une certaine manière, qu'il était devant un big problème. Qui es-tu, Seigneur ? Je veux savoir, est-ce que tu es Jésus ? Est-ce que tu es Dieu ? Hein, le roi des rois, le créateur du monde, etc. En tout cas, c'est une forme extrêmement respectueuse qui dépasse de loin le simple monsieur dont je parlais tout à l'heure. Et vu les circonstances, Saul se doute bien que la voix est celle de Jésus. Mais sans doute qu'il est encore dans le déni, ne veut pas le reconnaître comme tel. Et donc, il laisse cette possibilité que peut-être ce n'est pas lui, peut-être même c'est simplement un ange qui lui parle. Voilà, donc ça serait mieux, évidemment, hein, quelque part.
Oui, il préfère.
Et voilà que la voix lui répond, mais non, c'est moi. C'est moi, Jésus, hein, celui que tu persécutes. Et cette phrase est très intéressante parce qu'elle nous fait découvrir que tout ce que l'Église endure... Le Christ l'endure. Ça nous fait découvrir la solidarité du Christ avec l'Église. Parce qu'on pourrait très bien se dire, tiens, ben oui, Jésus, il est mort, c'est vrai, il a payé, c'était un peu cher, hein, c'était une sacrée note, mais finalement, il est ressuscité, puis il est monté au ciel, alors tout va bien. Ben non, tout ne va pas bien du tout. Parce que le Christ endure tout ce que nous endurons. Le Christ souffre tout ce que nous souffrons. Et je dirais même que le Christ ressent sans doute nos manquements pécheurs et s'en sent atteint d'une certaine manière. Donc, au fond, on découvre que persécuter les disciples, c'est persécuter Jésus. C'est ça que dit le texte. Hein. Donc, Jésus s'identifie aux siens. Il ressent nos maux. Et donc, quand on s'en prend à l'Église, on porte atteinte à Dieu lui-même. Et on pêche contre lui, comme dirait l'écriture au niveau hébraïsant, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous fait toucher du doigt que Jésus est très proche, finalement. Beaucoup plus proche que nous le pensons. Proche de nos expériences humaines. Bien souvent, on dit, vous le savez, hein, quand on est malade, ou en deuil, ou persécuté, ben, on s'en prend un peu à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fous ? Est-ce que tu es ? Etc. Ben, il est là. Voilà, c'est ce que le texte nous dit. Je ne peux pas ne pas être présent quand vous souffrez en mon nom, à cause de mon nom, à cause de moi, d'une certaine manière.
J'avais lu que le nom de Saul voulait dire interpellé, remis en question, questionné.
Si je traduis, à mon avis...
C'est en araméen, hein.
Je pense que ça voudrait plutôt dire désiré. Je
ne sais pas si mes sources sont bonnes. C'est ça que je te le demande.
Autant que je me souvienne, son prénom se traduit par Désiré.
Désiré ?
Paul. Saul. Saul de Tarse. Mais là, là, de nouveau, tu trouves tellement de choses dans les commentaires, parfois même contradictoires, que je me méfie un peu. D'ailleurs, certains commentaires disent que la traduction en grec de Shaoul, pour devenir Saoul en grec, laisse un, ça, c'est un prénom un peu efféminé en grec. Un peu pédé, si vous voulez. Donc, il valait mieux pas trop l'utiliser et retrouver son prénom romain. Paul, hein, ça, ça vaut peut-être mieux, Paulus. Ça lui met à l'abri. Ou alors c'est que vraiment l'évangile est très à la mode. Ok, revenons à nos moutons. Donc, dans le texte, on se rend compte que Jésus lui demande de se relever. Donc se relever, c'est toujours un hébraïsme pour dire bah, maintenant, ça y est. Hein, tu vas te mettre droit et puis tu vas avancer. Mais on se rend bien compte au verset 6 qu'on ne comprend pas trop c'est quoi finalement ce relèvement où on lui dit ben, écoute, Manuel, le reste de ta mission maintenant c'est d'aller en ville et on te dira ce que tu dois faire. Un peu comme ce qu'on avait vu dans un autre texte précédemment où c'était pas très clair au niveau de la mission. Tout ce que Paul sait à ce moment-là, c'est qu'il doit continuer son chemin, entrer à Damas et attendre qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Alors on imagine que pour un gars comme ça qui menait sa vie avec une énergie débordante, qui contrôlait tout et qui avait tout devant lui, ça doit faire un peu bizarre de s'entendre dire bah, « Écoute, maintenant tu vas te laisser mener par le bout du nez. » Et d'ailleurs, dit le texte, ses compagnons étaient obligés de le tenir par la main pour aller à Damas, vu qu'il ne voit plus rien, d'accord ? Et puis, alors après, il y a un petit commentaire sur les compagnons, justement, puisque eux aussi s'étaient arrêtés, ils sont muets de stupeur, et ils entendent la voix, mais ne voyaient personne. Ce qui sous-entend donc que Saul, lui, voit quelqu'un. D'accord ?
Oui.
Je ne sais pas si vous avez été vérifié ailleurs dans les textes, mais Saul, ce n'est pas juste un éclair. Dans cet éclair, il a discerné quelqu'un. Mais les autres, en tout cas, sont muets de stupeur, nous dit le texte. Ils ont la trouille, en fait. Réaction similaire, d'ailleurs, aux compagnons de Daniel. Dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure, au chapitre 10 de Daniel, les compagnons de Daniel font la même expérience. Et eux-mêmes, ils fuient, carrément. Ils vont se cacher, quoi. Alors, le texte nous dit ils entendaient la voix, mais précédemment, on avait quoi ? On avait au verset 3, ils approchaient de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa. Tombant à terre, il entendit une voix. La voix de quelqu'un, d'accord ? Tandis qu'ici, on a un petit distinguo en grec, qui est d'ailleurs repris en français, où ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Alors essayons de comprendre. Les compagnons de voyage de Saul entendent le bruit de la voix, un peu comme les Juifs au Sinaï. Ils entendent une espèce de grondement, mais ils ne distinguent aucune parole audible, n'est-ce pas ? Mais c'est la même expérience ici. Eux, ils entendent bien une voix, mais ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe.
Oui, on le voit au chapitre 22. Hein.
Exactement, 22:9 exactement, si tu peux le lire.
Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait.
Voilà. Donc c'est même redondant en grec, puisqu'au fond, il exprime que c'est la voix parlée qui n'est pas entendue. Tandis que la voix, le bruit d'une voix, c'est possible. Donc ça, ils ont pu entendre. Alors, Saul, lui, il entend parfaitement et distinctement la voix, et mis à part l'éclatante lumière... ils ne voient personne. Eux, ils n'ont pas cette révélation. Alors que Saul, lui, voit Jésus. D'ailleurs, on retrouve ça au verset 17 hein, et au verset 27. Je ne sais pas si vous pouvez...
Mais les compagnons ne voient pas la lumière non plus, apparemment.
Alors, eux, ils ont dû voir quelque chose. Ils ont dû la voir sans doute au début, mais peut-être pas autant que Saul ne l'a vécu lui-même. Mais plus loin dans les textes, on trouve les... Donc, alors, je reprends. Verset 17, on nous dit
Verset 17.
J'ai un commentaire, moi, ici. Les hommes entendirent bien le son de la voix qui parlait à Saul, mais ils ne saisirent distinctement aucune parole,
exactement,
tout comme ils virent bien la lumière resplendissante, mais ne distinguèrent personne.
Exactement.
Par contre, Saul vit le Seigneur et comprit son message.
Exactement. Et d'ailleurs, on retrouve dans la suite du passage, verset 17, vers la fin du passage du verset 17, Ananias parle à Saul et lui dit « Mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route. » Et verset 27, on retrouve la même idée un peu plus loin. Alors, c'est la partie qu'on n'a pas lue nous jusqu'à présent. Barnabas le prit alors avec lui, l'introduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur la route il avait vu le Seigneur. Et on retrouve les mêmes explications plus loin dans Acte 22, où Acte 22 va même jusqu'à dire qu'il voit le juste. Oui. C'est pas rien. Mm-hmm. Et il entend la propre voix du juste dans ce passage. Donc on veut vraiment, dans les Actes, souligner que la rencontre de Saul est vraiment une rencontre exceptionnelle avec un Jésus ressuscité et monté au ciel, mais qui se révèle à lui. Mm-hmm. Voilà. Et puis, bien sûr, Paul, lui, va en témoigner plus tard. Dans 1 Corinthiens, par exemple, 9, il va dire qu'il a vu Jésus. Il le répète dans 1 Corinthiens 15. Dans les Galates, il parle de la révélation de Jésus-Christ, qu'il a fait cette révélation, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une constante, autant dans les Actes que dans les récits pauliniens, au sujet d'une vraie rencontre avec le vrai Jésus, si vous voulez, le Fils de Dieu. Alors donc, je reviens au texte, on est toujours dans le septième verset, et on découvre verset 8, que Saul, lui, obéit, se relève de terre, il se remet sur pied, il a les yeux ouverts, mais il ne voit rien. Il ne voit plus rien, dit le texte. À quoi ça vous fait penser? Est-ce que c'est une expérience normale, ça? Parce que les autres, ils voient après, puisque c'est eux qui le conduisent. Mm-hmm. Donc, ils ont vu la lumière, mais ils ne sont pas aveuglés. Mm-hmm. Pourquoi cet aveuglement, alors? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et est-ce que cet aveuglement existe ailleurs dans les textes bibliques? Parce que c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question.
Tomber aveugle directement comme ça d'un coup, parce que des aveugles, il y en a dans
vraiment faire l'expérience de la cécité immédiate à cause de Dieu, on va dire. Alors ça, on va le découvrir très vite un peu plus loin dans le texte des Actes. Dans Acte 13, par exemple, dans Acte 13, on a, vous rappelez sans doute ce récit d'Élimas le magicien. Eh bien, Élimas, il va tombé aveugle, illico presto, pendant plusieurs jours aussi.
C'est donc,
chapitre 13.
Élimas 8. Élimas 13, 8.
Ah, Élimas, oui. Magicien.
Ah, c'est pas la Limas.
Élimas, je lui
dis. Je suis trop loin, moi, ici.
À peu près.
Oui, c'est ça, oui. Tu ne verras plus la lumière du soleil.
Tu peux le lire?
Le 11, alors. Bon, c'est Saul hein, qui lui dit maintenant, écoute, le Seigneur va te frapper et tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux d'Élimas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main.
Alors, maintenant, dans les récits de l'Ancien Testament, on trouve aussi ce genre d'expérience. Rappelez-vous, dans Genèse 19, par exemple, au moment où des hommes veulent absolument pénétrer dans une maison pour faire du tort aux autres, hein, ceux qui sont arrivés, eh ben, ils sont aussi aveuglés. Donc on se rend compte que l'aveuglement a quelque chose à voir avec sans doute la protection. Dieu donne temporairement la cécité à des êtres pour des raisons diverses. Et Saul, lui, il va déclarer au chapitre 22, encore une fois, au verset 11, qu'il a été aveuglé par l'éclat de l'apparition. Alors, peut supposer une sorte de lésion de la cornée, par exemple, puisque c'est assez temporaire. Il a fallu que les yeux se guérissent. On verra tout à l'heure pourquoi aussi. Mais la vraie question, c'est à quoi sert un aveuglement temporaire dans le cas de Paul ? Est-ce que c'est utile à quelque chose ou pas ? Et qu'est-ce qu'il signifie ?
Accomplir sa mission.
Alors déjà, vraisemblablement...
Oui, mais aussi peut-être il pouvait se concentrer sur tout ce qu'il a
besoin. Oui, quand on voit qu'il reste trois temps de réflexion.
Oui, je pense qu'il y a de ça. Alors, on va le découvrir très clairement dans le texte. C'est décrit dans le texte.
Ça m'a fait penser, parce qu'il y a les trois jours.
Oui.
Il y a les trois jours de Jésus au tombeau, les trois jours de Jonas dans le
ventre du poisson. Donc, le terme « trois » a quelque chose...
Et ça me fait penser que tu étais dans un certain état avant, et après, c'est différent.
Oui.
Dans les trois cas.
Oui. Donc, on a bien quelque chose qui est de l'ordre de la transformation, derrière le chiffre 3, déjà.
Mais parfois, quand on vit quelque chose d'heureux, on ferme les yeux pour pouvoir vraiment
l'apprécier,
l'intérioriser. Mmh.
Exactement. L'incruster, l'ancrer en nous-mêmes.
Je ne sais pas s'il était heureux, parce qu'il ne mangeait pas.
Il ne mangeait pas,
il devait être dans les chocottes.
Essayons de bien voir les choses. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début de la péricope. Saul croyait y voir très clair. Il était sûr de sa vérité, sûr de son engagement, sûr de son action, quand bien même elle dépasse le cadre de la loi, sûr de son judaïsme, de pharisien et de son zèle. Il pensait savoir ce qui est bien pour la cause de Dieu, en persécutant les disciples de Yeshua. Et voilà que Dieu le plonge dans l'obscurité totale pendant trois longs jours pour mettre à mort et soigner son aveuglement spirituel. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il était aveuglé spirituellement, incapable de voir la réalité, ni même incapable d'observer vraiment la loi, convenablement, ce qui est pire que tout. Et donc, cet aveuglement spirituel est là pour lui permettre d'ouvrir les yeux sur la vérité. Et là, je rejoins alors ton idée de transformation. Il faut un temps de transformation et ouvrir les yeux sur la vérité. C'est reconnaître Yeshua comme le Messie d'Israël, par exemple. Mais venons-en à la suite du texte, parce que c'est intéressant ce que Bernard disait. Sans rien manger ni boire, à quoi ça vous fait penser ?
Si tu continues comme ça,
c'est au désert.
Oui, alors c'est... d'autant plus là. On est quand même en Syrie, à Damas.
Ne pas
boire quand tu viens de voyager, etc., et qu'il fait chaud, c'est peut-être pas le meilleur truc. Mais ouais, ce détail est évocateur de nouveau. Luc précise dans le détail ce qui se passe. Et ce que nous ne voyons pas, ou ne lisons pas, parce qu'on le lit en français, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce détail est plus qu'évocateur. Parce qu'il veut dire pratique spirituelle du jeûne et de la prière. Après cette apparition, ce miracle pour Paul, il est question de se recentrer sur Dieu et de vivre quelque chose qui est de l'ordre de, alors à la fois de la repentance sans doute, mais aussi de la transformation spirituelle. Comment lui, qui était si zélé contre Yeshua et ses disciples, peut-il, au sortir de cette expérience, confesser lui-même le Christ comme le Messie ? Voyez ? Tout ça en quelques heures, finalement. Et donc Saul ressent le besoin de se détourner de ses erreurs et d'apprendre le vrai chemin pour suivre son judaïsme, c'est-à-dire celui du Messie qui lui est apparu. Car le Messie est juif, ne l'oublions pas non plus. Et c'est sans doute aussi un temps d'adaptation, de consécration envers Jésus, un temps pour que son âme... Ah, il vient de tuer des tas de gens. Il vient d'arrêter des tas de gens. Il vient de dépasser le cadre de la loi X fois. Eh bien, à mon avis, il doit être troublé, profondément troublé, de découvrir qu'il a mal agi lui-même et que finalement il a induit en erreur des tas d'autres autour de lui. Les compagnons qui l'accompagnent, ouais. C'est des militaires, c'est des soldats, c'est des gens qui viennent pour arrêter, enchaîner, etc. C'est pas lui qui le fait, évidemment, hein. Lui aussi, il a sa main d'œuvre. Donc, je pense qu'il y a là vraiment un temps nécessaire à l'apaisement de son âme avant d'affronter un nouveau ministère auquel il n'avait jamais songé, n'est-ce pas ? Puisqu'il va être appelé à la fois à travailler en monde juif, mais aussi et principalement dans le monde des païens. Ça va jusque-là ? Mm-hmm. Donc là, on conçoit mieux ce qui nous paraît très anodin en français, devient finalement lumineux quand on se remet dans la peau d'un juif. Il n'y est pas, il n'est pas en prison, on ne lui interdit pas de boire et de manger. Il est chez Judas, nous dit le texte un peu plus loin, dans une famille juive. Vous imaginez une famille juive où on ne donne pas à bouffer, à boire, ça n'existe pas. On va même trop vous donner. Donc il refuse de manger, il refuse de boire, parce que son âme est profondément troublée, attristée, et qu'il a besoin de remonter complètement la pente avant de pouvoir s'adonner de nouveau à la vie normale.
À ce moment-là, le Saint-Esprit, il a travaillé.
Bien sûr.
Il y a des gens qui sont des fois, j'ai déjà entendu ça, tellement remplis de l'amour de Dieu, la présence de Dieu, du Saint-Esprit, qui n'ont pas envie de manger et boire non plus.
Oui.
Je ne sais pas.
Hein. On peut faire des expériences.
Spirituellement.
Tout à fait.
Parce que pour vivre une transformation comme il avait... Moi, j'appellerais ça quand même une conversion, parce qu'avant, c'était comme ça, et maintenant, c'est comme ça.
D'ailleurs, quand tu t'approches de Dieu, et ça, on peut le voir chez les pères du désert, par exemple, très souvent, tu te passes de manger pendant des jours et des jours. Mm-hmm. Tu n'en as pas besoin. Ouais. T'es tellement dans la proximité de dire, oui, on peut dire que c'est dangereux aujourd'hui d'un point de vue médical, etc., mais
ne pas manger,
ça dépend. Boire, ne pas boire, c'est beaucoup plus problématique. Et là, c'était quand même dangereux. Alors, on nous raconte après qu'un disciple, alors un disciple sous-entendu de la voie messianique, un disciple nommé Ananias, au verset 10, c'est la forme grecque, si vous voulez, du prénom Anania en hébreu. Il était donc bien juif, comme la plupart des disciples de Jésus à Damas, d'ailleurs. Parce qu'on retrouve le mot disciple au 19b, par exemple, on se rend compte qu'il y avait des disciples de Jésus à Damas, c'est clair. Il y avait donc une église à Damas dont nous ignorons tout, sauf qu'elle était en lien avec Jérusalem. Et ça, c'est le verset 13 qui nous le montre. Comment Ananias pouvait-il être au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem et que Paul a mené s'il n'était pas en lien avec Jérusalem ? Vous voyez ? Donc l'église de Damas, peut-être clandestine, peu importe, est parfaitement au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et même Ananias sait quelle est la mission de ce type. Que Dieu veut lui faire rencontrer. Il dit, oh là, Seigneur, non. Pas celui-là.
Tu pousses un peu loin.
Ok.
Oui, c'est parce que
non seulement il connaît l'apôtre, mais il sait, comme tu viens de dire, qu'il vient avec des lettres.
Ouais. Exactement. Et donc, on devrait nous-mêmes comprendre immédiatement que l'Église à Damas est en train de se protéger. Donc ils se font clandestins. S'ils ne l'étaient pas, ils le deviennent. Et ils se protègent. Et lui refuse d'aller. C'est un peu ce qu'il dit à Dieu. Moi, j'ai pas envie d'aller voir ce type-là.
Tu te rends compte ?
Parce qu'il y a trop de risques, finalement.
Ouais.
Bon. D'ailleurs, plus loin dans les actes, on apprend de la bouche de Paul lui-même qu'Ananias était un juif pieux. Donc c'est encore un juif attaché au culte, au temple à Jérusalem. C'est pas juste un juif messianique ou un prosélyte ou un païen converti. C'est un juif pieux, fidèle à la loi, dira-t-il, dont la réputation était bonne auprès de tous les juifs de la ville. Alors même ceux qui ne sont pas de la voie messianique, un peu comme Étienne, si vous voulez, reconnaissent en cet homme quelqu'un d'exceptionnel. Donc c'est à ce quelqu'un d'exceptionnel qu'est adressée la vision. Ce n'est pas n'importe qui est envoyé vers l'apôtre Paul.
Ça ne pouvait pas être n'importe qui.
Non. D'ailleurs, après une petite réponse du Seigneur, bah, il répond immédiatement présent.
Oui.
Vous voyez, il ne dit pas ben non, j'y vais pas. Il répond présent, un peu comme Samuel, puis il accepte la mission, et ce qui nous montre la piété de cet homme. Cet homme obéit à Dieu, même s'il lui en coûte d'une certaine manière. Et alors, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que. On lui donne même l'adresse. Hein.
Oui.
Ouais, tu vas aller rue droite, dans la maison de Judas. Alors, c'est une rue qui existe encore aujourd'hui à Damas. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est une rue quasi rectiligne, pas tout à fait, mais quasi en ligne droite qui traverse la ville, la vieille ville de Damas, pas la ville actuelle, hein. Mm-hmm. La vieille ville orientale de Damas, d'est en ouest. Vous voyez ? Donc, traverse complètement la ville d'un bout à l'autre. Et c'était effectivement l'artère principale de la ville à l'époque, une voie romaine, pavée, de 13 mètres de large, pour être précis, qui traversait la ville d'ouest en est sur à peu près 1,4 km. Et puis aller au-delà de la ville, évidemment. Aujourd'hui encore, une telle rue, qui s'appelle aujourd'hui Darb al-Mustaqim, existe dans la vieille ville de Damas, avec bien sûr... des destructions, puisqu'on a construit des baraques, etc. Mais on peut encore la voir. Et d'ailleurs, on fait même, paraît-il, visiter la maison où Paul était chez Judas, mais ça, j'y crois beaucoup moins déjà.
Et on peut y en sortir.
Oui, c'est sûr. Par contre, Judas est un personnage inconnu, donc on ne sait pas de quel Judas il s'agit. Mais on imagine bien que ce n'est pas un juif de la voie messianique. Paul n'aurait pas été... chez Judas, qui était converti au Yeshua, non. Donc un juif qui n'est pas disciple de la voie, c'est tout ce qu'on peut en déduire en tout cas. Et c'est là qu'on découvre, dans la suite de ce passage, que Saul, lui, est originaire de Tarse. Et la question que nous devrions nous poser en étudiant ce texte, c'est pourquoi Dieu choisit Saul de Tarse? Pourquoi pas un autre? Un autre juif ennemi de la voie messianique, etc. Eh bien, en choisissant Saul de Tarse précisément, Dieu choisit d'abord un hébreu, théologien du judaïsme, à la différence des 12. Aucun des 12 n'a la carrure de Paul en termes intellectuels, j'entends.
Donc, tu veux bien redire, Saul est un... Tu veux bien redire,
il est hébreu, théologien du judaïsme, hein, il a étudié la loi, à la différence des 12 autres, hein, les fameux apôtres ou disciples, d'accord, qui eux étaient des gens beaucoup plus simples, mais très croyants, très pieux, connaissant quand même l'écriture, mais pas au point où Paul en est. Pourquoi alors? Parce qu'alors ça voudrait dire que Paul, ou Saul, peu importe, est... capable de traduire les Écritures et le judaïsme en des concepts qui deviennent accessibles au peuple des nations, c'est-à-dire les païens. Une partie de la vocation dépendait des caractéristiques personnelles de Saul. Saul est vraiment taillé pour le job, parce qu'il connaît la culture païenne. Lui, il a vécu en dehors de Jérusalem, dans un pays étranger. Alors, Tarse, c'est où? C'est en Cilicie, c'est-à-dire le sud-est actuel de la Turquie, si vous voulez, à 15 km à peu près de la mer, si j'ai bon souvenir. Et donc, lui, il a vécu dans une grande ville, parce que Tarse, c'est pas un village. Tarse, c'est une ville très importante, avec de grandes écoles et de nombreux philosophes. On se disait, tiens, vous savez, quand il fait des discours à Athènes, ben, il a appris là. Hein. Gamin, il a appris la philosophie. Et puis... non, c'est vraiment l'intello total, capable de traduire dans des termes grecs, parce que c'est la langue parlée des païens, en grec, capable de donner une sorte de traduction immédiate de l'écriture à des peuples qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce n'est pas que. Il n'y a pas que cet aspect-là. Il choisit aussi Saul de Tarse, parce qu'il est citoyen romain. Ça, nous ne devons pas l'oublier non plus. Tarse en Cilicie, c'est une ville dans laquelle de nombreux juifs, alors il y a une diaspora importante à Tarse, de nombreux juifs, qui, pour beaucoup, avaient la citoyenneté romaine. Parce qu'à une époque, entre la guerre des chefs, au niveau de Rome, entre l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient, vous vous souvenez peut-être du schisme, eh bien, certains ont pris le parti de Rome. Et grâce à ça, beaucoup de Juifs sont devenus citoyens romains, de fait, pas des affranchis, de vrais citoyens romains. Alors on peut discuter sur quel était le statut de Paul et de la famille de Paul. Est-ce qu'ils étaient affranchis, sous-entendu anciens esclaves, ou est-ce qu'ils faisaient partie de ceux qui ont été reconnus par Rome comme étant de vrais citoyens romains pour avoir pris position pour Rome? Peu importe, tout ce qu'on va découvrir, nous, au fil des actes et d'ailleurs des écrits de Paul, c'est qu'il va se servir souvent de son étiquette romaine pour aller de l'avant dans la propagation de l'Évangile. Alors, essayons de comprendre.
Il se sert de tout ce qu'il a. Hein.
C'est clair. C'est un gars super intelligent.
C'est vraiment ça, oui.
Donc, imaginez, il est citoyen romain, parlant couramment grec parce qu'il a étudié en grec, capable donc de traduire la parole de Dieu, l'Évangile même, et de toucher l'Empire jusqu'à son cœur. Parce que grâce à son statut de citoyen romain, il demandera à aller à Rome. C'est lui qui exigera d'être jugé à Rome et d'amener l'Évangile au cœur de Rome, etc. Et tout ça aussi rapidement que possible. Alors cette citoyenneté romaine, ça lui accorde quoi? Ben, une grande protection juridique. Et dans certains des récits dont on étudiera plus tard, avec certains officiers de Rome, qui eux étaient des affranchis, il avait le dessus. C'est la raison pour laquelle les tribuns lui disent « Bon, non, ça va. Hein, maintenant, t'as fouetté à tort, mais on va réparer ça. Tu veux aller à Rome, on va aller à Rome. Hein. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même autorité que lui. Ils n'ont pas le même statut que lui. Et donc, ça lui accorde une protection juridique efficace qui va lui permettre de faire durer sa carrière apostolique. Car imaginez que dès les premières tribulations qu'on rencontrera dans les actes, il aurait très bien pu être arrêté tout simplement puis exécuté. Point final par les Romains. Et il ne le sera jamais. Il va faire un long apostolat grâce à citoyenneté romaine jusqu'à ce qu'il exige d'être jugé. Alors on ne sait pas trop comment il l'aura été, etc. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais on sait en tout cas qu'il finit sa vie à Rome. Alors donc, le verset 12, et ça c'est l'extraordinaire aussi, hein, il vient dans la vision d'Ananias. La vision d'Ananias lui dit, il y en a un autre qui a une vision, et il te voit en train de venir lui imposer les mains, etc. Une vision dans la vision, si vous voulez. Et ceci démontre bien ici l'intervention divine. Car cette double vision, cette espèce de vision simultanée chez deux hommes différents qui ne se connaissent pas, pour les connecter ensemble, si ça, ce n'est pas de l'initiative de Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Et au fond, c'est Dieu seul qui prend cette initiative. C'est là qu'on voit le caractère divin des choses. Et pour la raison en est simple, pour que la mission aboutisse chez les païens, il fallait cette espèce de rencontre extraordinaire à Damas, ce que jamais Saul n'aurait imaginé, bien entendu. Et il est clair aussi, pour ceux qui n'auraient pas compris, que quand on parle de vision, il ne s'agit pas d'une visibilité physique. La vision est une représentation en esprit. Et la preuve ici, c'est que Paul est toujours aveugle. Donc Paul ne voit rien que ce qu'il a dans sa caboche, finalement. Et Dieu lui parle à l'intérieur de lui-même, en lui disant, mais écoute, il y a quelqu'un qui va venir, et il va t'imposer les mains, et tu vas retrouver la vue, etc., etc. On imagine évidemment au moment où la vision s'adresse à Ananias, qu'Ananias n'est pas très serein. Il découvre sa mission, rendre la vue aux persécuteurs de l'Église, c'est peut-être pas une bonne idée. Et pourtant, c'est ce qui va arriver bel et bien au verset 17. Hein, malgré sa réticence initiale dans les versets 13 à 14, Ananias obéit et va effectivement permettre à saint Paul de recouvrer la vue, mais pas que.
Au tout départ, il répond directement « Oui, Seigneur hein. ».
Oui.
C'est après, quand il sait ce qu'il doit faire.
Quand il connaît la mission, il y a un petit peu plus de difficultés. Oui. Alors on découvre aussi au verset 14 une autre appellation des chrétiens, une nouvelle appellation, hein, ceux qui invoquent ton nom. Jésus, sous-entendu. Hein. Autre appellation donc qui vient sans doute de Joël, du prophète Joël au chapitre 3, verset 5. Nous avions déjà auparavant, dans la même péricope, les disciples du Seigneur au verset 1, les adeptes de la voie au verset 2, les saints au verset 13, et maintenant donc on a ceux qui invoquent ton nom. Donc on voit qu'il y a un foisonnement d'idées chez Luc pour appeler les chrétiens. Alors, qu'est-ce qui va décider Ananias ? Eh bien, c'est le contenu du verset 15, de ce que Jésus dit. Cet homme, sous-entendu Saul de Tarse, est un instrument que je me suis choisi. Ça veut dire quoi ? Mais qu'avant même la visite d'Ananias, Saul est déjà converti. C'est ça que nous dit le texte, si on peut utiliser cette expression. C'est-à-dire que avant même qu'Ananias mette les pieds chez Judas pour rencontrer Saul de Tarse, Saul a fait tout un cheminement qui l'a amené à reconnaître le Christ comme le Messie. Il fait partie de la nouvelle voie messianique du judaïsme. Et il est maintenant prêt à recevoir la mission, la vraie, celle qu'il ne connaît pas encore. Il est parfaitement apte à l'assumer, comme on l'a vu tout à l'heure, par toutes ses qualifications, entre autres. Mais surtout, par la grande différence qu'on va découvrir chez Saul de Tarse. Autant cet homme était peut-être orgueilleux et un peu trop zélé, autant il va devenir humble et aimant par rapport à ceux qu'il persécutait autrefois et à tous les païens qu'il va convertir par la suite. Donc, on se rend compte combien Dieu a travaillé en l'espace de quelques jours, de quelques heures, dans la vie d'un homme pour le transformer complètement sa mentalité, sa vision du monde, sa vision du judaïsme, au point d'embrasser finalement la mission. Et comme on le découvrira dans la prochaine péricope, quelques jours plus tard, il proclame dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui est vraiment le blasphème le plus grand qu'on puisse donner dans le judaïsme. D'accord ? Donc ça, c'est incroyable quand même. Alors, il reçoit la mission, toujours verset 15. Maintenant, il comprend, parce qu'Ananias sans doute lui aura délivré. Et la manière dont c'est dit, c'est... Alors moi, je cite la Tob ici. Hein, il est appelé à répondre de mon nom, sous-entendu Yeshua, devant les nations païennes. Et cette expression a plutôt un sens négatif. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, ah, c'est la super mission d'évangélisation, c'est formidable d'être missionnaire, etc. Ben, ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte, en fait. Il dit... Tu vas être amené à témoigner ou à confesser mon nom en situation d'accusé et de persécuté. C'est ça que dit le texte, en fait. C'est-à-dire, il y a derrière cette idée-là une idée de tribulation, une idée de ministère dans la souffrance et de souffrance pour le Christ, hein, pas de souffrance pour se faire du tort, se flageller ou s'auto-flageller. Non, non. L'idée même de prêcher l'évangile aux païens, et puis aux juifs aussi par la même occasion, ça va être une mission terrible et difficile pour saint Paul. D'ailleurs, je vous invite à...
après, pardon, que tu dois souffrir pour mon nom.
Exactement. Et on retrouve chez saint Paul lui-même, dans 2 Corinthiens, alors si quelqu'un veut lire, c'est sympa, mais c'est pour se souvenir, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, on a Paul lui-même qui dit quelles ont été les souffrances qu'il a endurées pour l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage.
Sont-ils ministres de Christ ? Je parle comme un homme hors de sens. Moi, outre mesure, dans les travaux surabondamment, sous les coups excessifs, dans les prisons surabondamment, dans les morts souvent. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups, moins un. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans les profondeurs de la mer. On voyage souvent dans les périls sur les fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi de faux frères. Peine et en labeur, en veille souvent, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité.
Voilà. Il y avait une liste, alors c'est lui qui en témoigne, c'est son autobiographie, on pourrait dire. Donc voilà. Et dans ce qu'il cite là, il y a des choses qu'on ne savait pas. Si lui ne les avait pas dites, par exemple, être battu 3 fois de verge, on en connaît 1 ou 2, je pense, dans les actes, mais pas 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des circonstances où son statut romain ne l'a pas. Parce que flagellé, ça veut dire romain. C'est les Romains qui lui infligent ces punitions-là. Alors parfois il le fait exprès, il se laisse battre pour après dire, dites, est-ce qu'on a le droit de frapper un Romain? Il est malin. Voilà. Donc répondre du nom de Jésus implique en tout cas pour Paul l'idée d'un ministère souffrant, à l'image de son maître, le serviteur souffrant. D'accord. Maintenant on pourrait se demander, nous, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Est-ce qu'on peut imaginer un christianisme triomphant où nous ne souffririons pas d'être ce que nous sommes? On l'a cru pendant un temps au niveau de l'Église, notamment moderne. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas vrai partout sur la planète et que peut-être ça l'est un peu moins maintenant en Occident aussi. Donc oui, il y a une souffrance à être chrétien, à appartenir à la fois au royaume de Dieu et au monde des ténèbres, si vous voulez. C'est un double statut difficile. Rien que ça, c'est difficile. Mais alors être témoin, c'est encore plus compliqué. Parce que là, on se heurte à l'opposition, à la moquerie, à la persécution, etc. Alors donc, notre cher Ananias, verset 17, lui impose les mains. Et on se rend compte alors, verset 17, que cette imposition, ce n'est pas simplement la guérison, cet aveuglement de 3 jours, mais c'est aussi le don de l'Esprit, en tout cas d'être rempli d'Esprit Saint, dit le texte. Donc une espèce de double nécessité de l'imposition des mains. Et contrairement à ce qu'on avait vu plus tôt dans le texte des Actes, cette fois-ci, je crois que c'était pour les Samaritains, c'est d'abord le Saint-Esprit, puis ce sera le baptême après. Alors que chez les Samaritains, c'était le baptême d'abord et le Saint-Esprit après, etc. Bon. Alors, maintenant, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne voudrais pas qu'on dépasse trop l'horaire. Alors, verset 18, on nous explique que consécutivement à l'imposition des mains, eh bien, il y a des sortes de d'écailles. Alors, ça dépend des traductions. Je ne sais pas si vous avez une autre. Membrane, croûte, éventuellement. Parce qu'en grec, c'est ça qui est dit, hein. L'épice, l'épidos, c'est écailles de poisson ou des croûtes. Croûtes comme on peut en avoir sur la peau. Ce qui me faisait imaginer qu'alors c'était peut-être quand même la cornée qui a été atteinte par cette espèce de luminosité intense et qu'il lui a fallu ces 3 jours aussi pour pouvoir rénover, hein, récupérer au niveau de la cornée, de la lésion en tout cas oculaire. Donc il faut aussi peut-être comprendre. En grec, c'est quelque chose qui ressemblerait plus à... c'est comme si des écailles. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme on ne trouve pas les mots pour le dire, on dit, ça se rapproche de l'idée de quelque chose qui tombe de ses yeux, une sorte d'impression, si vous voulez, peut-être pas de réalité, mais l'impression que Paul a, c'est que ses yeux vont mieux, parce que quelque chose a disparu, est tombé, lui permet de voir. En tout cas, ce qui est réel, par contre, là, c'est qu'il a recouvré la vue complètement. Et la preuve, c'est la suite du texte, évidemment. Et puis, le même verset continue en nous disant, mais illico presto, il reçut le baptême. Et ça, c'est encore une fois étrange, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de catéchèse. Bon, évidemment, c'est un docteur de la loi. Il n'a peut-être pas vraiment besoin. Mais en tout cas, le texte grec dit clairement, Saul se lève. Ouais. Vous voyez, dès qu'il recouvre la vue. Alors, peut-être était-il à genoux, peut-être était-il assis à terre, parce que lui imposer les mains, ça se faisait peut-être plus pratiquement comme ça. Et donc, il se relève d'un bond. Et après avoir donc passé 3 jours à jeûner, à prier, l'imposition des mains qui lui est donnée, le don de l'esprit, eh bien Saul reçoit le baptême d'eau en Jésus. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire, il a accompli toutes les caractéristiques de la voie messianique. Il s'est laissé happer par le Seigneur Jésus, il s'est laissé dominer par son judaïsme messianique, et maintenant, il devient disciple à part entière avec le baptême d'eau. Il est transformé, si vous voulez, en frère messianique, qu'il pourchassait quelques heures auparavant, et il est envoyé auprès des païens. La question qu'on peut se poser, c'est, dis donc, il est chez Judas, là. Comment ça se fait qu'il peut être baptisé comme ça? Il se lève et poum, on le trempe dans l'eau.
Ah.
Alors, on peut se dire, plusieurs solutions. Nous sommes dans une famille juive, non messianique.
Beaucoup d'ablutions.
Peut-être y a-t-il un mikvé dans la maison qui permet de pratiquer les ablutions rituelles.
Oh,
oui, c'est pour dire que c'est l'heure d'arrêter.
C'est le gong de fin.
Alors, et puis en plus, on se dit, nous, on se fait des représentants, on se dit, mais bon sang, Damas, il n'y a pas d'eau, etc. Mais si, il y a une immense rivière qui traverse la ville au nord de la vieille ville, qui s'appelle la rivière Barada, aux eaux abondantes, même en été, pour la raison simple qu'elle prend sa source dans les monts, qui sont un petit peu plus loin, à 40 km de là, à peu près 30 de kilomètres, enneigés les trois quarts du temps. Donc il y a de l'eau en permanence. Et qu'en plus, il y a une fontaine, une source vauclusienne, à quelques kilomètres de Damas, qui tombe dans la rivière Barada. C'est-à-dire une source qui jaillit quand même à 5 mètres cubes seconde. Donc voilà, quoi, il y a sans rien faire. Et d'ailleurs, oui. Donc ce qui se passe, c'est que on imagine Damas comme désertique. Pas du tout. Damas est un oasis dans lequel il y a de multiples bains dans la ville. Tout le monde peut se baigner tous les jours, sans problème. Donc il n'y a aucun problème pour être baptisé au cœur même de la ville de Damas. Vous voyez ? Et on imagine que s'il y avait des dizaines de milliers de Juifs, inévitablement, il devait y avoir des mikvaot, c'est pas possible autrement. Hein? Voilà, tout simplement, pour les aspects cultuels en tout cas. Et puis le verset se termine, enfin, notre péricope se termine avec le verset 19a. Ayant pris de la nourriture, il reprit des forces. C'est-à-dire, imaginez une semaine de voyage, déjà bien éprouvant, la rencontre incroyable avec Jésus, 3 jours de jeûne et de refus de boire, et de concentration sur Jésus, il devait être quand même un peu lessivé, notre Saul de Tarse. Il est temps qu'il se mette à manger un bout, et à boire surtout, oui. Parce qu'il devait être sans doute très affaibli au moment où se déroule tout cela. Et donc après avoir été nourri spirituellement, il s'alimente, ce qui lui permet de reprendre des forces, dit le texte. Pourquoi faire ? Pour remplir sa mission. Tout simplement. Là, autant il a été zélé pour persécuter l'Église, autant il se branche directement sur sa mission, comme on le verra dans la section suivante. Alors la section suivante, ce seront les versets 19b à 25. On s'arrêtera à 25 pour ne pas être trop long déjà. Et je l'ai intitulé « L'enseignement à Damas de Saul, devenu disciple de Jésus ». Voilà qu'il se met à enseigner cette fois-ci au nom de Yeshua, d'abord dans les synagogues, comme on le verra. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y en a pas, peut-on réfléchir à 2-3 applications.
Que c'est Ananias qui lui avait donné toute sa mission, on ne le dit pas.
Si. Oui, on ne le dit pas, mais on se demande bien comment Paul l'a deviné. Or, on sait dans le texte que tu as sous les yeux qu'Ananias, lui, est bel et bien informé par Jésus du pourquoi. Pourquoi je suis envoyé chez saint Paul. Voilà. Donc la déduction, c'est qu'Ananias lui a dit très clairement. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il lui annonce ça dans une maison qui n'est pas juive messianique. Donc on peut imaginer le retentissement sur Judas et sa famille qui peut-être passe aussi du bon côté de la barrière.
Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous avez songé à quelques applications. Moi, j'avais pensé à la modération. Il est temps que les disciples de Jésus soient modérés, comme notre maître. Et puis Saint Paul, c'est l'expérience qu'il fait.
Moi, ça m'a fait penser à ma propre conversion. Je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas vu une lumière éblouissante plus forte que le soleil, mais ce que je peux dire, c'est que le jour où Christ m'a parlé, ou m'a touché, c'est comme la lumière qui s'est levée dans mon cœur. Mmh. Et j'ai relevé un verset de Paul en 2 Corinthiens 4-6, et Paul a tellement été touché par cette lumière qui dit: car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et là, ce verset, pour moi, il résume tout à fait ce que c'est que la conversion. Mm-hmm. Un beau jour, paf, la lumière se fait dans notre cœur. Mm. Et cette lumière, c'est Christ qui resplendit à la gloire de Dieu comme étant celui qui est mort pour moi. Mm-hmm. Pour nous, à notre place, pour les pécheurs que nous sommes, rachetés, pardonnés, justifiés, et c'est l'appel. Et j'ai trouvé ce verset vraiment intéressant, et j'ai même fait une copie. Je me suis dit peut-être qu'on aura le temps de chanter, mais il est trop tard. Mais vous connaissez le cantique « La vérité, le chemin et la vie ».
Oui.
Et il commence par: né de la poussière, donc né d'homme, et d'éternité, né de Dieu, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin, la vie. Paul aurait très bien pu écrire ce cantique. Et peut-être que celui qui a écrit, qui est un certain Chefneux, un belge, je crois.
Qui était un ami.
Ouais.
Quand j'étais jeune, oui.
Lui qui a écrit, il a peut-être pensé à Paul quand il a écrit ça. Ben, il n'y a pas que Paul qui a vu la lumière.
Qui sait.
Je trouve ça, la correspondance vraiment intéressante. J'ai vu la lumière. Paul a vu la lumière.
Ce qui fait d'ailleurs dire à Paul, Christ est ma vie. C'est aussi une belle expression. Quand tu penses qu'il pourchassait tous ceux qui croyaient en lui, c'est impressionnant.
Et en Galates, tu dis encore une dernière chose: lorsqu'il lui plut de révéler en moi son Fils. Il a plu à Dieu de révéler à Saul de Tarse son Fils, le Sauveur, le Messie.
Comme implication, j'ai aussi le zèle pour le Seigneur, parce que tu parles de modération, mais oui. Une fois qu'il a... Donc ça, c'était...
Oui, mais plus jamais il ne sera comme... violent.
Oui, d'accord.
Il l'est parfois dans les mots pour provoquer la réflexion chez les uns et les autres.
Oui, mais plus... Mais le zèle sans la violence, d'accord, mais il est quand même fort zélé après.
Oui, on le verra dans d'autres chapitres plus loin, 22 et 26, il se décrit comme un juif zélé. Dans le bon sens du terme. Mais il reconnaît quand même, dans la section qu'on a lue tout à l'heure, qu'il a quand même un peu exagéré à un moment donné.
Mais il s'est fait aveugler.
Enfin, il ne s'appuie pas sur le fait, il ne s'arrête pas là-dessus.
Non.
Moi, ce que j'ai
et c'est d'ailleurs ce qui va faire très peur aux disciples partout, c'est qu'on ne croit pas qu'il ait changé. On pense que c'est une imposture pour mieux les... Donc ils se méfient tous.
Et la Bible ne nous parle pas d'une culpabilité qui n'arrive pas à en sortir. Il a tué des frères, mais il va servir pour...
Il va en gagner des milliers.
Et il va en gagner des milliers. Et il doit peut-être probablement y penser souvent, et on le voit dans son témoignage, mais ça ne l'arrête pas.
Non.
Quand Dieu pardonne, c'est incroyable, hein.
C'est une vraie libération, le pardon, parce que avant j'étais catholique et on parle du pardon, mais on a toujours l'impression que, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas une fois que j'ai compris que j'étais pardonnée, je n'étais plus quand il m'arrivait encore de tomber dans les mêmes travers, hein, on fait toujours les mêmes choses. Alors avant, j'étais, oh, encore une fois, j'ai chuté, trop parlé, tout ça. Mais après, eh bien, quand j'ai compris que le Seigneur m'avait pardonné mes fautes avant, pendant, après, eh bien, le jour où je chutais, ben, c'était plus de la tristesse de l'avoir fait, mais... libérée parce que je savais que j'étais déjà pardonnée. Et ça a vraiment changé beaucoup dans ma vie. Tu demandais si notre chemin de Damas, moi c'est ça que je vois, mon chemin de Damas. J'ai vraiment ressenti ce pardon de Dieu, vraiment une délivrance, quoi. J'étais jamais tranquille. Est-ce que je suis sauvée, point d'interrogation, jusque bien tard, tant que je n'ai pas eu compris que le Seigneur m'avait pardonné, si je demande pardon, évidemment, mais bon, il m'a pardonné. Quand j'ai compris ça, ben, j'étais sûre de mon salut.
Mais moi, je trouve, chez les catholiques, même si je ne me confesse quasiment plus, je trouve qu'il y a encore plus d'accent sur ce pardon si on va se confesser à un prêtre. Mais moi, ça c'est entre parenthèses. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est pas à la Saint-Paul, une conversion comme ça, subito presto, c'est comme une gradation, tant dans la lumière que face à la mission. Et je vois sans arrêt des histoires qui se passent à différentes périodes de ma vie, tant sur la révélation de Dieu, hein, la lumière, sur Dieu, l'amour de Dieu, sur Jésus mort et ressuscité, sur l'Esprit et sur la mission. Et maintenant, ça revient. C'est comme si c'était avec la montagne, là, que j'en passe à certains moments par les mêmes choses, mais plus haut, quoi. Chaque fois, ça se consolide. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et pour le moment, moi, il met l'accent, par exemple, sur les quelques années qui me restent à vivre, c'est de plus en plus sur, justement, porter la parole et la guérison. Et je lis là-dessus et je fais des formations, parce que c'est son appel actuel. Je me disais, c'est sans arrêt pour qu'il...
J'ai lu dans Porte Ouverte la semaine dernière qu'il y avait un chaman vietnamien qui persécutait les chrétiens et qui s'est converti et qui maintenant est persécuté. Mais bon, voilà, il est converti et je dis, bon, ça existe encore. Les persécuteurs qui 360 degrés, se transforment, le Seigneur est encore puissant et transforme les cœurs. C'est ça que, enfin, moi, souvent je prie quand j'entends nos frères qui sont persécutés, je dis que ces persécuteurs soient convertis. Il n'y a que ça, il n'y a que toi qui peux changer les choses, il n'y a pas d'autre truc. Hein, parce qu'ils sont tellement aveuglés par leurs idées et la violence. Et quand on voit toute cette violence, on se dit c'est incroyable. Humainement, ce n'est pas pensable, mais le Seigneur peut encore convertir les cœurs. Et voilà, c'est ça.
Ma sœur m'a passé un article de la Libre Belgique et c'est le témoignage d'un fils d'un responsable, du fondateur du Hamas.
Oui, le Cheikh, le fils d'un Cheikh qui était fondateur du Hamas.
Et donc il a quitté son père parce qu'il trouvait que c'était trop de violence et il s'est converti, il est chrétien.
Alors, il a été espion pour Israël pendant moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans. Il a écrit son livre. Mais d'ailleurs, ces jours-ci, il a beaucoup témoigné, y compris dans des sphères politiques, pour dire tout le mal qu'il pensait du Hamas, justement, et qu'il faut arrêter de casser du sucre sur le dos d'Israël quand on ne connaît pas la réalité telle qu'elle est à l'intérieur du Hamas. Donc c'est intéressant. Et alors, savoir qu'après ça, il s'est tourné vers Jésus, justement, donc non seulement c'est avoir travaillé pour les Juifs, mais c'est en plus découvrir la voie messianique et risquer sa vie, parce qu'évidemment, le premier qu'il trouvera le tuera, ça c'est clair.
Est-ce qu'il n'habite pas aux États-Unis?
Oui, aux États-Unis. Mais je pense qu'il vit sans doute protégé, d'ailleurs.
Il y a un témoignage fort aussi d'un sataniste. Ce n'est pas d'une autre religion, tout ça, mais...
Mais c'est le même genre de truc.
Un témoignage fort que j'ai écouté il n'y a pas longtemps.
Comment Dieu peut vraiment te donner une nouvelle vision de la vie et te faire complètement oublier les paramètres dans lesquels tu étais et dans lesquels tu vivais dans l'obscurité, en fait.
Et la vie tout court, sans Jésus, on n'a pas de vie. C'est lui qui donne la vie.
Ok, mes amis, ben, je pense que... On avait dit qu'on essayait de respecter l'horaire. Alors que le Seigneur vous raccompagne les uns les autres dans la paix.